Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Podcast de l'Académie des sciences.
Sur la place Saint-Michel, à Paris, une armoire électrique municipale a retenu mon attention. On y a peint un portrait. On lit « Figure 16, les illustres du 6e ». Sophie Germain, 1776-1831. Sophie Germain illustre ? Peut-être.
Nous qui sommes sans passé, les femmes. Nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes effacées de nos mémoires.
Il est difficile d'évoquer le nom de mathématicienne avant le milieu du 19e siècle. On peut certes mentionner Émilie du Châtelet, 1706-1749, traductrice de Newton, ou à l'inverse, la britannique Mary Somerville, 1780-1872, traductrice de Laplace, notre Newton français. Mais il faut bien reconnaître que ce sont plus des commentatrices éclairées que de véritables créatrices de science. Le manque de parité parmi les scientifiques est criant. Et notre académie s'apprête à publier un rapport sur ce triste constat. Il nous faut trouver des exemples susceptibles d'encourager les jeunes filles à s'orienter vers les disciplines scientifiques. Sophie Germain constitue à cet égard un excellent modèle. Prenons garde à deux écueils. D'une part, celui de l'anachronisme. Il faut bien sûr analyser et commenter le machisme de nos prédécesseurs, mais il est inutile de les juger selon nos normes contemporaines. Contentons-nous de condamner notre machisme actuel et d'essayer de le réduire. D'autre part, attention aux images reconstruites. Pensez par exemple à Marie Curie, souvent présentée aujourd'hui comme une sainte républicaine, ayant consacré sa vie à la religion science, en sacrifiant tout le reste. Est-ce vraiment le modèle que nous souhaitons présenter aux jeunes ? Ne peut-on être scientifique sans être nécessairement un saint ? Sophie Germain est née à Paris en 1776, dans une famille aisée, et elle est morte en 1831. Elle a donc traversé une période mouvementée de notre histoire nationale.
Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain.
Elle a manifesté très tôt un goût prononcé pour les mathématiques, en bonne partie grâce à deux ouvrages présents dans sa bibliothèque familiale.
La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de...
Je vais tenter de vous décrire très succinctement son œuvre scientifique. Mais il me faut d'abord vous dire que la plupart des historiens des sciences considèrent que cette œuvre n'est pas majeure et que, par ailleurs, elle a commis un certain nombre d'erreurs. Comment pouvait-il en être autrement quand elle n'avait pas accès à la documentation scientifique, quand l'école polytechnique n'était pas accessible aux femmes ? Jusque 1972, quand elle devait se mesurer à des géants comme Euler, Gauss, Laplace, Lagrange et Poisson, pour ne citer qu'eux. Selon moi, le plus important, avant même ses contributions, est sa détermination, j'allais dire sa hargne, son avidité, son culot pour avancer dans la science en fonçant droit devant, sans hésitation. Voilà un beau message pour la jeunesse.
Messieurs les rois, plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la...
Ces contributions scientifiques sont de deux ordres très différents. Théorie des nombres et théorie de l'élasticité. En théorie des nombres, elle a été fascinée, comme tant d'autres, par le célèbre problème de Fermat. Montrer que la somme des puissances n-ièmes de deux entiers ne peut pas être une puissance n-ième dès que n est au moins égal à 3. Euler l'avait montré pour n égale 3 et n égale 4, mais le mystère restait entier pour tout n supérieur ou égal à 5. Sophie Germain a cru pouvoir le démontrer pour toutes les valeurs de n, mais le gendre lui montrera une erreur. Mais il n'empêche qu'elle l'a démontré pour beaucoup de valeurs de n. On dit qu'un nombre premier est un nombre premier de Sophie Germain si 2n plus 1 est aussi premier. Par exemple, le nombre premier 5 est de cette sorte, car 2 fois 5 plus 1 font 11, est aussi premier. Mais 7 ne l'est pas, car 2 fois 7 plus 1 égale 15 n'est pas premier. Sophie Germain résout le problème de Fermat lorsque n est un nombre de Sophie Germain. Pas mal du tout. Elle ne le publiera pas. Ce sera publié dans un livre de Legendre qui citera Sophie Germain dans une note en bas de page. Le deuxième thème qui a occupé Sophie Germain est celui de la vibration de surface élastique. Depuis Bernoulli et Euler, on connaissait bien la dynamique des cordes vibrantes, comme des cordes de guitare. Mais qu'en était-il pour une surface, comme celle d'un tambour ou de cymbales ? En 1808, Chladni était venu à l'Académie des sciences et y avait présenté des expériences restées célèbres en présence de Napoléon Ier. On saupoudre du sable sur un tambour qui vibre et on observe que le sable s'accumule le long de courbes dont la géométrie est fascinante. C'est ce que Germain a cherché à comprendre en réponse à des concours lancés par l'Académie des sciences à l'initiative de l'empereur. Les mémoires qu'elle envoie sont longs, pas toujours convaincants, parfois faux, mais il y a une idée importante qui a joué un rôle majeur dans toute la suite, en mathématiques comme en physique, le concept de courbure moyenne. Voici, en quelques mots, ce dont il s'agit. Depuis la fin du XVIIe siècle, on avait défini la courbure d'une courbe située dans le plan, et on avait compris qu'une corde vibrante est soumise en chaque point à une force proportionnelle à la courbure qui tend à la ramener vers une situation rectiligne. Mais lorsqu'on dispose d'une surface dans l'espace, comment mesurer sa courbure? Dans les quatre mémoires de Sophie Germain, elle écrira toujours avec détermination qu'il faut considérer la moyenne des deux courbures principales. On aurait pu penser à beaucoup d'autres choses, par exemple le produit des deux courbures, mais elle insiste sur la moyenne. Même si ses arguments ne sont pas toujours convaincants, elle a raison. Et la courbure moyenne était promise à un brillant avenir aussi bien en maths qu'en physique. Bien sûr, il y a surface et surface. Un tambour, des cymbales, une surface de caoutchouc, ou encore une membrane biologique. Toutes ces surfaces ont des physiques différentes, et cela, ni Germain, ni Laplace, ni Poisson ne pouvaient l'analyser, bien sûr. Il en fallait de l'énergie pour aborder ces questions quand on était une femme au début du XIXe siècle, surtout pendant ces temps révolutionnaires où il n'était pas bon pour une jeune fille de bonne famille de sortir dans Paris.
Le béton avait promis de faire égorger tout Paris, mais son coup a manqué grâce à nos canonniers.
Sophie Germain s'est formée en autodidacte. D'abord, en lisant le cours de mathématiques à l'usage des gardes du pavillon de la marine, de Bézout, et l'histoire des mathématiques de Montucla, qui se trouvait chez elle. Il a fallu convaincre ses parents qu'une jeune fille pouvait s'intéresser aux mathématiques plutôt que de chercher un bon parti. Ses parents finiront par comprendre. Mais cela ne suffisait pas. L'école polytechnique ouvre en 1794 et le célèbre Lagrange en est l'un des premiers professeurs. Elle obtient des copies de ses cours et lui pose des questions par écrit en prenant un pseudonyme masculin. Antoine Augustin Leblanc. Lagrange répond, trouve les questions pertinentes, convoque Monsieur Leblanc et découvre une jeune femme de 18 ans sans s'offusquer du stratagème Leblanc. Ils resteront toujours en contact par la suite. Pour avancer, il fallait lire Newton et Euler, qui écrivaient en latin. Elle apprend seule le latin avec cette unique motivation. En fait, elle entrera en contact épistolaire avec les principaux mathématiciens de son époque. Pour certains, comme Legendre, toujours gentil avec tout le monde, ce seront de bons conseillers. Pour d'autres, comme Poisson, ce sera au contraire une vive concurrence, à vrai dire très inégale, le pot de terre contre le pot de fer. L'autodidacte Germain contre Poisson, une sorte de rouleau compresseur scientifique. L'épisode le plus intéressant se situe lorsque Sophie Germain écrit à Gauss. Bien sûr, sous le nom de Monsieur Leblanc. En 1801, Gauss venait de publier ses Disquisitiones Arithmeticae, qui bouleverse l'arithmétique, au point qu'on dit souvent que ce livre marque la transition entre l'arithmétique et la théorie des nombres. Il fallait du culot pour que cette jeune femme ose écrire à Gauss qu'on surnomme le prince des mathématiques. Aujourd'hui, on dirait qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Gauss répond et une dizaine de lettres s'échangent. En 1804, elle s'inquiète, car les troupes de Napoléon vont passer par Brunswick, où Gauss habitait à l'époque. Elle demande à un général de ses connaissances de protéger Gauss, ce dont il s'acquitte. Mais lorsque le général mentionne le nom de Sophie Germain, Gauss répond qu'il n'a jamais entendu parler d'elle. Et le pot aux roses est découvert. Monsieur Leblanc est en fait Mademoiselle Germain. Gauss lui écrit alors une longue lettre dont voici un extrait. « Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé Monsieur Leblanc en cet illustre personnage qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine de croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des nombres est fort rare. On ne s'en étonne pas. Les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe, qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes, à se familiariser avec ses recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaire, le génie supérieur.
J'ai trouvé des thèmes, écrit des poèmes. On ne m'a jamais dit, petite fille, sois gentille. Je ne suis pas une poupée fragile, mais une femme.
Ses travaux sur les surfaces élastiques vont être élaborés par étapes. D'abord, un mémoire soumis en octobre 1811 en réponse à un concours de l'Académie. Il est malheureusement faux. J'avais commis des erreurs graves, écrira-t-elle. Il ne fallait qu'un coup d'œil pour les apercevoir. On aurait donc pu condamner la pièce sans prendre la peine de la lire. Heureusement, un des commissaires, M. de Lagrange, remarqua l'hypothèse. Il en déduisit l'équation que j'aurais dû donner moi-même si je m'étais conformé aux règles du calcul. Quel bel exemple d'intégrité scientifique! Puis, un second mémoire en 1813, Poisson en profite pour s'emparer du sujet lui-même avec succès et fait traîner le rapport de l'Académie. Elle reçoit quand même une mention honorable de l'Académie. Enfin, en 1815, elle remporte le prix lors du troisième concours. la première femme qui remporte un prix de l'Institut.
Je n'ai pas vraiment le sexe d'un garçon, mais ce qu'il faut pour me faire entendre dans ce monde sans face où les femmes sont mises de côté, pas toujours écoutées.
Fourier, qui était secrétaire perpétuel à l'époque, lui accorde un grand privilège. Elle est autorisée à assister aux séances publiques de l'Académie. Je rappelle qu'à cette époque, aucune séance n'était accessible aux femmes. Voici sa lettre datée du 30 mai 1823, soit 8 ans après son prix. « Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous prévenir que toutes les fois que vous proposerez d'assister aux séances publiques de l'Institut, vous y serez admise dans l'une des places réservées au centre de la salle. L'Académie des sciences désire témoigner par cette distinction tout l'intérêt que lui inspirent vos ouvrages mathématiques et spécialement les savantes recherches qu'elle a couronnées en vous décernant un de ses grands prix annuels. Agréez, mademoiselle, l'hommage de mon respect. Fourier. » Ainsi, c'est à force de volonté et de détermination que Sophie Germain a réussi à pénétrer un peu dans le milieu scientifique fermé du début du 19e siècle. Elle meurt le 27 juin 1831, au numéro 13 de la rue de Savoie, à Paris, à quelques mètres de l'Institut, suite à un cancer du sein. Un certain nombre de rues, écoles, lycées portent aujourd'hui le nom de Sophie Germain. C'est ainsi le cas pour l'un des deux sites de l'Institut mathématique de Jussieu. Le prix Sophie Germain de l'Institut, remis chaque année sur proposition de l'Académie des sciences, est destiné à couronner un chercheur ayant effectué un travail de recherche fondamentale en mathématiques. Depuis sa fondation en 2003, 21 lauréats ont reçu ce prix, dont deux femmes. Allons-nous corriger cela ? Vous avez entendu des extraits de l'hymne des femmes par Mathilde, de Saïra de Edith Piaf, La Carmagnole de notre Johnny National, Sexe d'un garçon de Cléa Vincent et le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.